Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonsoir, bonjour, bienvenue dans Onde Femme, Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis de 17h à 22h, en direct dans nos studios. Et d'où et où vous pouvez nous appeler, puisque nous sommes là, au 50 40 51 41, je répète, 50 40 51 41. 021 en préfixe si vous appelez depuis Genève, 0033 si vous appelez depuis la Suisse romande voisine. Alors, Onde Femme, c'est tout d'abord 17h-18h30, remue-ménage. Et dans remue-ménage aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer le problème des femmes musulmanes confrontées avec la cohabitation en Suisse. Des femmes musulmanes doivent porter, selon le Coran pour certains, le voile, doivent se comporter d'une certaine façon en tant que femmes. Et lorsqu'elles vivent dans un monde qui a des traditions différentes des leurs, comment cela se passe-t-il ? Et le problème du voile, le problème de la cohabitation entre femmes et hommes, petites filles, petits garçons, pose des problèmes ces temps en Suisse. Et deux histoires ont attiré l'attention des médias, ont suscité, et c'est surtout cela qui a attiré mon attention, ont suscité des lettres de lecteurs, de lectrices, avec des noms qui prouvent que les personnes écrivant sont d'origine de pays arabes ou du même genre, en tout cas peut-être musulmans de religion, des noms de signants qui prouvent que les gens sont plutôt suisses, bref, des avis très divers selon les origines et les croyances des uns et des autres. Et puis tout ça, eh bien moi j'ai eu envie de le mettre en lien avec un important dossier qui était paru en juin-juillet 93. Donc nous n'avions pas eu le temps de vous en parler, dans le journal Femmes Suisses, journal dont nous vous présentons toujours le cœur, l'essence. Eh bien, dans ce journal, en juin-juillet, eh bien, on accordait aussi une grande importance au dossier sur les femmes voilées ou dévoilées dans les pays arabes. Et en disant, quand on parle de ces femmes-là, on pense aussitôt à l'intégrisme islamique. Eh bien, pourtant là-bas, depuis des décennies, les femmes se battent pour leurs droits. Porter le voile ou ne pas le porter étant sûrement pas forcément le plus important de leurs soucis. Alors, un peu contrebalancer toutes ces voix diverses, c'est l'objectif de remue-ménage aujourd'hui. Alors, pour commencer tout de suite, en musique, et elle nous accompagnera tout au long de cette émission, de même qu'une autre chanteuse très très différente, et bien d'abord, c'est l'Algérienne Djoura. Djoura, on en a déjà souvent parlé, on l'a souvent écoutée, elle a écrit un livre qui raconte sa vie à elle, de jeune femme exilée en France, et qui a subi la folie de sa famille, qui menaçant, attaquant son compagnon français, la séquestrant, enfin une histoire absolument monstrueuse que vivent d'ailleurs, par ailleurs, bien d'autres jeunes femmes en France, par exemple. Djoura a décidé de chanter son pays, qui peint surtout des chansons qui évoquent surtout la société algérienne, aux prises avec un peu les séquelles d'un passé à la fois que certains qualifient d'obscurantiste, mais surtout de colonialiste, et puis aujourd'hui en prise avec l'intégrisme musulman. Et c'est parce que sa musique rejette les charmes frelatés du folklore commercial et parce qu'elle parle de ce qui la touche, que ses chansons sont tellement émouvantes. Entre autres, elle a été, je vous l'ai dit, jeune pionnière qui a dû se battre pour suivre sa vocation artistique. Elle a pleinement conscience des préjugés qui entravent encore l'épanouissement des femmes en Algérie. Alors plusieurs de ses chansons les dénoncent. Elle parle au nom de celles qui n'osent pas encore se révolter, qui s'abstiennent de dénoncer des abus ou de revendiquer leurs droits, de peur de se voir rejetées par une société qui ne les a pas armées pour assumer leur liberté. Combien de filles douées ont dû renoncer à leur vocation pour se résigner à un morne mariage imposé, par exemple. Et dans la très belle chanson que vous entendez maintenant, mais qui est surtout un poème plutôt, qui a pour titre « Je suis celle qui porte le nom de femme », eh bien, Djoura nous dit « Mon père, je ne te pardonne pas, toi qui m'as mangé comme le blé tendre, si tu m'avais laissé grandir, j'aurais choisi parmi les meilleurs ». Aujourd'hui, et Djoura est là pour le prouver, la jeune fille algérienne ne vit plus comme il y a 20 ans. Les mères elles-mêmes rêvent d'un autre avenir pour leurs filles. La révolution a porté un coup aux idées reçues. Des femmes, entre autres, ont laissé leur nom dans l'histoire. D'autres, beaucoup plus nombreuses bien sûr, ont milité à côté des hommes, apportant la preuve de leur maturité d'esprit et de la vigueur de leur idéal, et ça c'était au moment de la Révolution. Et il est normal que la femme algérienne occupe aujourd'hui une place nouvelle et assume un rôle actif dans une société qui se veut saine et sans discrimination sexiste. Mais hélas, ce n'est pas encore cela qui existe en Algérie aujourd'hui. Je suis celle qui porte le nom de femme. Le jour de ma naissance, tout autour de moi ressemblait à un enterrement. Pourtant, des voix me crient. Tu es l'étoile du berger, le soleil de l'hiver, la fille de l'honneur. Grâce à toi, nous sommes fiers. Alors vous tous qui me voyez, vous qui me regardez comme une étrangère, sachez que je porte le nom de femme et que c'est de moi que vous êtes née. Le problème de la femme concerne tous les membres de la communauté. Les hommes, eux aussi, souffrent d'un mariage imposé et de l'inculture de leur mère ou de leur compagne qui n'ont pas pu fréquenter l'école. Ils souhaitent, plus ou moins consciemment, un changement. Voilà pourquoi tout un public d'émigrés, d'hommes et de femmes, s'est reconnu dans les chansons de Djoura, le nom du groupe, et les a acclamés partout en France, et même aussi en Algérie, puisque Djoura a pu aller chanter en Algérie aussi, bien qu'elle ait été longtemps écartée. Après un spectacle donné à Orly, une fois par exemple, des femmes immigrées sont venues lui dire « Ce n'est pas de la chanson, vous avez fait tomber un mur. Toutes les femmes à travers vous s'expriment. » Le cas du peuple algérien qui a lutté pour retrouver son identité et qui lutte encore ne saurait être mis à part, c'est celui de tout le monde arabe et même du tiers-monde en général. Les chansons de Djoura tracent un tableau réaliste d'une société à un tournant de son histoire, consciente de ses carences mais aussi fière de ses valeurs, valeurs par exemple dont les chants kabyles sont une des plus belles illustrations. Alors Djoura et le groupe Djoura, puisqu'elle chante avec deux autres femmes, ici Fatima et Malia, Djoura, je disais, conscient du rôle qu'ils pourraient jouer dans l'évolution culturelle de leur pays, eh bien hâte d'aller chanter encore une fois en Algérie et dans le monde arabe. En tout cas, son succès en France prouve que l'art le plus universel est aussi l'art le plus profondément enraciné dans les réalités locales. C'était Radia Hanaki qui écrivait cela. Djoura. Thank you. C'était Djoura, une chanteuse algérienne que nous retrouverons tout au long de cette émission, qui évoque la situation de femmes musulmanes en Suisse. Et tout est parti de deux histoires. Des femmes turques refusent d'enlever leur foulard traditionnel pour prendre des photos qu'elles doivent remettre au contrôle de l'habitant pour renouveler leur permis d'établissement. Autre événement, un père interdit à sa jeune fille qui va à l'école primaire d'aller à la piscine. L'école, le département d'instruction publique du canton de Zurich en l'occurrence, refuse. Le tribunal fédéral va dans le sens du père. La Suisse découvre le choc des cultures au quotidien. Alors, c'est de ceci que nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, j'évoque un article qui est sorti dans l'Hebdo dans la deuxième semaine de juillet. Il est écrit par Philippe Barrault. Il y a voile et voile, commence-t-il. Et il évoque l'affaire de Bienne, c'est-à-dire les jeunes femmes turques qui refusent d'enlever leur foulard qu'elles portent non pas selon les femmes iraniennes et leur tchador strict noir, mais un foulard coloré qu'elles accrochent comme nos grands-mères accrochaient leur fichu autrefois. Philippe Barrault écrit « L'affaire de Bienne, mise en évidence par les médias ces derniers jours, est sans commune mesure avec celle qui a défrayé la chronique en France. » Rappelez-vous, il y a quelques années, il s'agissait aussi de l'école et que l'on voulait imposer aux enfants de ne pas porter le voile en classe. À Bienne, une vingtaine de jeunes musulmanes turques sont engagées dans un bras de fer avec le chef de la police des étrangers. Celui-ci exige qu'elles fournissent des photos d'identité sans foulard pour leur permis de séjour, tandis que celle-là refuse tout net cette entorse à la tradition. Autre histoire, à Zurich, autre claquement de voile. Mais il ne s'agit pas du tout de voile. Un Turc établi à Dietikon entend que ses enfants soient élevés selon les principes stricts du Coran. Il a donc interdit à sa fille de 11 ans d'aller à la piscine avec ses camarades de classe pour les cours de natation, puisqu'elle aurait dû se montrer en costume de bain à des garçons de son âge. La commission scolaire de Dietikon a refusé la dispense demandée, de même que le conseil d'État zurichois, donc département de l'instruction publique. Celui-ci relevait que la jeune fille n'était pas encore pubère et donc que les préceptes vestimentaires du Coran ne la concernaient pas. Eh bien, le tribunal fédéral, à Lausanne, en a jugé tout autrement. Il a conclu que l'obligation faite à la jeune fille de se montrer en costume de bain pouvait constituer une atteinte à la liberté religieuse. Comme l'ensemble du programme scolaire n'était pas compromis, le tribunal fédéral a estimé concevable de faire une exception. La décision a beaucoup surpris, car le tribunal fédéral s'est montré, si l'on ose dire, plus royaliste que le roi. Écoutez plutôt ce qu'en dit Salah Bazalama, qui est président du foyer culturel musulman de Genève. Si le père a invoqué la religion pour interdire à sa fille d'aller à la piscine, il l'a fait de manière abusive, puisque l'enfant n'était pas pubère. Je suis donc étonnée de la souplesse du tribunal fédéral, qui est tout à son honneur, cela dit. Ceci sont les propos d'un musulman et même qui est président du foyer culturel musulman de Genève. Sur l'affaire de Bienne, il continue à se prononcer de la façon suivante. Il observe que de toute façon, le port du voile n'est pas une obligation en soi. Ce n'est pas un pilier de l'islam. Le choix de le porter appartient à la femme. C'est une décision personnelle, intime. Alors, que penser de ces deux affaires qui ont cependant le mérite de démontrer que les problèmes d'intégration ne sont jamais résolus une fois pour toutes et que le débat entre les partisans de l'assimilation des étrangers et ceux du multiculturalisme est loin d'être clos. Et si l'idée est généreuse, en vogue ces dernières années, comme le multiculturalisme paraît, est aujourd'hui plutôt en perte de vitesse. Alors, ce qui s'était passé en France et les lois Pasqua sur l'immigration témoignent aussi de cette évolution. Il y a un durcissement des conditions d'obtention de la carte de résident en France, notamment par le mariage, des obstacles accrus au regroupement familial, des contrôles d'identité, expulsions facilitées, etc., etc. Ceci, vous en avez beaucoup entendu parler sur les ondes diverses de radio et d'autres médias. Mais c'est que l'envers de la médiane n'a pas toujours tenu ses promesses, parce que les valeurs qui sous-tendaient le discours du multiculturalisme, la tolérance, l'enrichissement réciproque, l'ouverture, l'apport de son œuf, ont souvent été éclipsés, selon certains, précisons-le bien, par les inconvénients du système et leurs effets. Par exemple, le fait que ces populations aient été atomisées dans les banlieues et qu'on ait remarqué un repliement sur elles-mêmes de ces différents groupes culturels. On a aussi remarqué qu'ils ont été obligés de vivre dans les lieux qui en faisaient des sortes de foyers de paupérisation, de chômage et de violence. Par exemple, dans un petit livre qui vient de paraître, qui a pour titre « L'universel enraciné » et qui a paru au cahier de la Renaissance vaudoise, Olivier de la Créta soulignait que prendre l'intégration, c'est-à-dire la cohabitation des communautés ethniques et culturelles plus ou moins fermées, ça c'est une définition du Larousse, donc prendre l'intégration comme principe directeur du traitement de l'immigration, c'est armer une bombe à retardement en tant qu'elle pose l'appartenance raciale ou ethnique comme un fait définitif et qu'elle rejette le principe même de l'assimilation des communautés étrangères. L'intégration crée les conditions à terme pour des affrontements aussi violents que sans issue, à l'image de ceux qui se déroulent en Yougoslavie. Nous laissons à M. de la Créta la responsabilité de ses propos. L'assimilation, toujours selon ce monsieur, n'est pas phagocytage pur et simple. Elle ne cherche pas à éradiquer une culture pour la remplacer par la culture ambiante. L'école est le lieu privilégié de cette imprégnation. Comme le note une enseignante de Chavannes, Francine Vernès, dont les classes comptent jusqu'à 48% d'élèves étrangers, et je fais remarquer que dans certaines écoles, partout en Suisse romande et en Suisse allemande, on trouve des fois même plus d'élèves étrangers. Donc le but, selon Francine Vernès, n'est pas de nier la culture de ses enfants, mais de faire en sorte que chacun participe aux activités de la classe. Au reste, observe-t-elle, les parents en général jouent le jeu et font les efforts nécessaires. Quant aux enfants, ils ont en général très envie de faire comme les autres. Alors, qu'en est-il de la petite fille de Zurich? Est-ce qu'elle, elle aurait eu envie de faire comme les autres et d'aller à la piscine? Eh bien, notre plus haute instance juridique a décidé à sa place et que cette liberté-là était beaucoup moins importante que celle pour son père d'imposer ses conceptions personnelles du Coran à sa famille. Ceci n'est évidemment pas surprenant dans le cas de la famille musulmane. Mais en cela, il y a eu précédent. La décision du tribunal fédéral a suscité, en Suisse alémanique surtout, de fortes réactions qu'on peut traduire par l'épineuse question suivante. Jusqu'où, au nom de la tolérance, faut-il tolérer l'intolérance? Jusqu'où faut-il accepter de mettre nos propres valeurs entre parenthèses au nom de la liberté religieuse? Je pense qu'en l'occurrence, personnellement, la première question est la plus importante. Jusqu'où, au nom de la tolérance, faut-il tolérer l'intolérance? Mais je pense que dans le cas présent, c'est toujours plus intéressant de connaître l'avis des gens concernés. Mais donnons d'abord l'avis peut-être à un certain nombre de personnes qui se sont prononcées sur la question. Par exemple, dans la Weltwoche, l'écrivain Thomas Hürlimann fustigeait la décision des juges de Lausanne. Voyons ce qu'il dit. Celui qui quitte sa terre natale doit laisser derrière lui une partie de ses valeurs et de ses conceptions. Ainsi, il se trouve confronté à une nouvelle culture qui lui est proposée et offerte. Les enfants sont davantage les enfants de leur époque et du lieu où ils vivent que ceux de leurs parents. Un historien, Georg Kreist, lui-même défenseur du multiculturalisme, qualifiait l'analyse de Thomas Hürlimann, que je viens de vous lire, de matériellement fausse et politiquement fatale. Pas car pour lui, l'arrêt du tribunal fédéral qui l'approuve donne l'occasion de réfléchir sur la question suivante. Dans quelle mesure les organes de l'État d'accueil doivent-ils intervenir dans la vie quotidienne des immigrants de cultures différentes? Encore un autre avis. L'éditorialiste du Sonntagsblick, Frank Meyer, lui fixe cette limite en termes de valeur et critique vertement au passage les juges de Lausanne. L'arrêt du tribunal fédéral est, dit-il, l'expression de l'abdication de nos valeurs, de notre pensée libérale. Car si la liberté est indivisible, cela vaut aussi pour une jeune musulmane de 11 ans. Celui qui veut vivre dans notre société doit respecter nos valeurs les plus élevées, démocratie, tolérance et liberté. Eh bien, il arrive pourtant que les exigences d'une culture ou d'une religion soient peu compatibles avec nos usages. Le triplement du nombre des musulmans en Suisse en 12 ans, donnons quelques chiffres, ils ont passé de 56 625 en 1980 à quelque 200 000 aujourd'hui. Et à côté de cela, la montée d'un courant intégriste parmi ceux-ci donne à penser que les affaires de Zurich et de Bienne ne resteront pas isolées et que donc il est important de discuter de façon un peu plus fondamentale ces questions et de mettre ensemble tous ces avis fort différents sur le respect et le non-respect de la liberté religieuse, de la liberté d'avis, de choix, tout simplement. Alors, quel était le prétexte pour imposer aux jeunes femmes turques le port du foulard, quel était le prétexte pour imposer aux jeunes femmes turques l'obligation d'enlever leur foulard traditionnel lorsqu'il s'agissait de renouveler leur permis de séjour? Alors, M. Hans-Peter Wettstein, chef de la police des étrangers à Vienne, a tout du brave homme compréhensif. Seulement, voilà, certaines choses le désolent et le révoltent et l'incitent à agir de manière irréfléchie. « Cela me fait mal au ventre, dit-il, de voir ces jeunes turcs en foulard. » Elles sont belles, elles ont fait leurs écoles ici, elles parlent le suisse allemand comme moi. Alors, par défi peut-être, ou par dépit sans doute, il décide donc d'intervenir. Depuis début juin, il n'accepte plus que les femmes posent en foulard pour le renouvellement de leur permis de séjour. C'est pour la plupart. Aujourd'hui, nous sommes modernes, explique l'intéressé. Nous sommes branchés sur le registre central et la formule des permis de séjour est standardisée, un peu comme les abonnements de demi-tarif des CFF. Plus question donc de télérer comme avant, des livrets manuscrits, avec n'importe quelle photo. Il faut que les gens soient clairement reconnaissables, avec des cheveux et des oreilles visibles. Alors, est-ce que les femmes, les jeunes femmes turques, avec leur foulard traditionnel, ne sont-elles pas reconnaissables parce qu'on ne voit pas leurs oreilles? Là est la grande question. Mais Hans-Peter Wettstein en a cure. Pour lui, ce foulard, c'est un caprice. Il n'y a aucune raison de le tolérer. Et il a un argument choc. Les Suisses n'ont pas non plus le droit de porter des couvre-chefs. Mais il y a une exception pourtant, et elle date du 17 octobre 1984. Eh bien, c'est l'exception qui concerne les religieuses ou des personnes appartenant à une religion exigeant le port d'une coiffe en public. Elles ont le droit de garder leur voile, même sur leur photo-passeport. Alors bien sûr que dans la communauté turque de Bienne, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. L'épouse de l'imam de Bienne a fondu en larmes avant de se plier à la nouvelle exigence. Une vingtaine d'autres femmes refusent toujours d'aller chercher leur nouveau permis avant que l'Office fédéral des étrangers, saisi de l'affaire, n'ait pris position. Le cas échéant, elles se disent prêtes à défendre leur cause devant la justice. Je comprends parfaitement leur attitude, explique Arzu, une jeune vendeuse de 20 ans qui pourtant ne porte pas le foulard. C'est une pratique religieuse qui ne gêne personne, dit-elle. Et qu'on ne vienne pas dire qu'une femme en foulard n'est pas reconnaissable sur une photo. Et celle qui se teigne les cheveux alors? Et les hommes qui se laissent pousser la barbe? Non, l'argument ne tient pas. C'est une pure chicanerie contre nous. Et c'est sûrement bien ainsi que quelques 450 Turcs de Bienne, environ 4% de la population, comprennent cette affaire. Et un des représentants de la communauté auprès des autorités ne cache pas sa surprise. « Je ne comprends pas pourquoi on nous traite ainsi. Nous avons toujours fait l'effort d'intégration. Je suis fier de pouvoir dire que la commune n'a jamais eu d'ennui avec nous. Tenez, il n'y a pas un toxicomane, pas un trafiquant de drogue parmi mes compatriotes biennois. » Et effectivement, du côté de la police, on se félicite de la bonne entente entre Turcs et Helvètes. Alors pourquoi donc vouloir envenimer les relations? Eh bien, à en croire Sevat Bozkurt, le jeune secrétaire et comptable de la mosquée, la méfiance face à l'islam a sensiblement augmenté ces dernières années, généreusement nourrie par la montée de l'intégrisme dans le Maghreb, en Iran et les fantasmes européens qui vont avec. Avec des films comme « Jamais sans ma fille », les gens sont encouragés à diaboliser l'islam, explique-t-il. Ils ont peur, alors ils n'essayent pas de comprendre et rejettent tout en bloc. Sa jeune sœur en sait quelque chose, elle qui se refuse à porter le foulard. « J'entends les commentaires dans mon dos », lance-t-elle rageusement. « Ils me prennent pour une arriérée, pour une semi-débile, ils me plaignent, c'est insupportable. Ma mère, elle s'en fiche, elle ne comprend pas assez bien le suisse allemand. Mais moi, je suis née ici, je ne veux plus qu'on me méprise. Alors je ne porterai pas le foulard, en dehors, si ce n'est à la mosquée. » À Bienne, il y a une deuxième mosquée, plus politisée, qui s'est ouverte. Sans être encore officiellement, elle accueille des musulmans du Maghreb, du Moyen-Orient, d'ex-Yougoslavie et une bonne moitié de la communauté turque. Le vrai bras de fer entre la police de Bienne et la communauté turque n'aura sans doute pas lieu. Mais pour le représentant de la communauté turque, Celal Turan, il entend expliquer lors d'une rencontre avec le Grand Conseil à quel point il est important pour une musulmane d'être libre de porter le foulard en toutes circonstances. Il pourra s'appuyer sur l'exemple des autres cantons qui tolèrent les photos passeports en foulard. à condition, bien sûr, que le visage reste bien visible. En outre, un conflit similaire portant sur les photos de permis de conduire en Argovie s'est résolu en faveur des femmes turques et tout indique que le département fédéral de justice et police abondera dans le sens de la tolérance. Alors Hans-Peter Wettstein, responsable de la police des étrangers, risque bien de rester le seul à maugrer contre cette nouvelle mode qui peut fort bien imposer l'année prochaine le port d'un sac Migros sur la tête, pourquoi pas, dit-il. En ce qui nous concerne, eh bien... Port du voile ou non, liberté de porter le foulard en toutes circonstances, comme ce dont parle Celal Turan, représentant de la communauté turque de Bienne, eh bien, ceci nous intéresse seulement dans la mesure où on y répond par la voix des femmes concernées. Et avant de leur donner la parole, eh bien, je vous donnerai encore juste quelques extraits de courriers des lecteurs parus toujours dans l'hebdo, suite à cet article et à d'autres articles, deux dossiers importants sur l'islam, qui avait pour titre « La nouvelle guerre de religion islam-occident », l'un sur l'Algérie et d'autres pays musulmans, puis ensuite un sur l'Afghanistan. Mais tout de suite, laissons-nous respirer pour mijoter ces grandes questions sur la tolérance et l'intolérance et la liberté.